Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric Saint-Élégant pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 avec des invités qui viennent se raconter en musique. Ce soir, je reçois une romancière, scénariste, dramaturge, metteur en scène et désormais comédienne, Alice Zaniter. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Tu es sur la scène du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai pour la pièce Je suis une fille sans histoire. C'est un mélange de performance, de stand-up, pièce de théâtre que tu as adapté de ton livre du même nom, sorti l'année dernière. Comment est-ce que tu as décidé de passer le pas et d'aller passer de l'écriture solitaire à la scène et de te dévoiler comme ça?
En fait, ça s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que le livre, c'est déjà le texte du spectacle. Mmh. Puisque à la base, moi, ce que je me suis dit que je voulais faire, c'était en gros raconter une histoire des histoires, faire une sorte de conférence autour de comment on construit les récits, donc de la narratologie et tout ça, mais en lui donnant un aspect qui soit hyper ludique, hyper joyeux. Et du coup, en gommant ce qui peut paraître austère dans ces théories-là, et qui fait qu'on se dit « oui, mais ça, c'est un savoir réservé à une poignée de vieilles universitaires ». Et on imagine tous ces vieilles universitaires comme Sean Connery jouant le père d'Indiana Jones dans les films. Et de dire « non, en fait, c'est hyper important. Savoir comment on construit ou on décortique un récit, c'est hyper important pour nous toutes et tous. » Et donc, bah, du coup, moi, j'essaye de partager des outils. Et comme le rire est un des grands moyens de partager les choses et d'enlever toute hiérarchie verticale dans une transmission des savoirs, ben, du coup, en effet, ça frise un peu le one-woman show, quoi.
Est-ce qu'à un moment, l'écriture a été un outil dont tu as compris qu'il pouvait t'ouvrir des portes, t'ouvrir des serrures, t'ouvrir des clés, des coffres ?
Ben, forcément, oui. Bah, écriture et lecture ensemble, mais c'est un truc qui arrive pendant l'enfance. Et moi, mon enfance, bon, déjà, comme tous les enfants, en fait, je suis mineure, donc mes droits sont limités. Je peux pas faire
à Alençon, en Normandie, ton enfance.
C'est ça, à côté, ouais, dans la campagne. Donc voilà, je suis mineure, je suis à la campagne, donc j'ai pas accès à tous les trucs dont je rêverais quand je suis enfant. Il faut que je demande aux adultes pour faire le moindre trajet qui m'emmènerait vers un truc un peu fun. Il faut, voilà, il y a plein de choses quoi qui m'échappent. Et du coup, lire et encore plus écrire, ça me permet de me projeter dans des situations qui, elles, sont exceptionnelles. Ça m'ouvre toutes les portes, ça me rend surpuissante.
Est-ce que tu te rappelles de ton premier voyage dans un livre ?
Le tout premier, non, en fait, les premières histoires, forcément, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs d'histoires lues au bord du lit par les parents, des vieux albums de contes, mais c'est très flou. Et vraiment, le premier livre dont je me revois plongée dedans la tête, la première avec passion, c'est l'Histoire sans fin. Et je m'en souviens...
Tu sais ce que j'ai à la maison, là ?
Non, qu'est-ce que
j'ai? J'ai Laurine. J'ai un...
Bah, évidemment.
Mon seul bling-bling. J'ai pas de bijoux, j'aime pas les bijoux, j'aime pas le luxe, j'aime pas les trucs comme ça. Le seul collier que j'ai chez moi, c'est Laurine.
Et jamais tu le portes, juste il est dans une sorte de petit coffret comme
non,
ça.
C'est le bijou qui orne ma bibliothèque.
Ok.
Il est posé comme ça. Et en fait, une amie m'a offert le livre de l'Histoire sans fin. Elle m'a offert une édition avec Laurine dedans.
Bah oui. C'est ce qui est censé être sur le livre que lit Bastien Balthazar Bux dans la librairie. Il y a cette Laurine sur la couverture. Ah ouais, je pense que j'ai rêvé d'avoir ça pendant, pendant presque deux décennies, je dirais.
Bon, tu rêves encore, en fait, on peut le dire. On peut le dire que tu me jalouses.
C'est ça. En fait, on peut dire que si ton urine disparaît, tu sais qui chercher pour le cambriolage.
Cette histoire, l'Histoire sans fin, c'est un enfant qui ne veut pas affronter la réalité, qui veut fuir le réel, et qui s'invente un monde imaginaire, et c'est un monde imaginaire qui se meurt au fur et à mesure où la réalité le rattrape. Est-ce que cette histoire te parle ?
En fait, je dirais qu'il faut préciser que c'est un enfant qui fuit la réalité parce que la réalité le tabasse. En fait, c'est un enfant, c'est un enfant qui est trop gros et que les autres garçons harcèlent, frappent, etc., insultent et qui a besoin quoi de trouver un autre endroit où il puisse exister. Et oui, et ce qui est très beau, c'est que je trouve que c'est un livre qui est hyper intelligent, quoi, sur le rapport à la fiction, sur à la fois la façon dont elle peut nous servir de refuge et en même temps sur les limites de ce qu'on peut faire avec cet engagement dans la fiction, sur les dangers qu'il y aurait à basculer dedans tout à fait. Parce que le film n'a jamais montré toutes les choses qui arrivent une fois que Bastien bascule en fait, dans le pays imaginaire. Et ça, c'est passionnant. Et je crois qu'il y avait, ouais, il y avait cette chose qui, en tout cas, moi, me parlait beaucoup. C'était la possibilité que la fiction et le réel interagissent. Mmh. Et plus que le basculement total, je crois que c'est le moment où Igramule, la multiple, attaque Atreyu et Bastien hurle. Mmh. Et en fait, son hurlement s'entend dans le roman. Et ça, je me disais, je crois que c'est mon rêve de lectrice, quoi. Le moment, ou de spectatrice de film, d'ailleurs. Tu sais, le moment où on dit à un personnage, mais fais pas ça, fais pas, non, ne t'engage pas dans le défilé, ça n'est pas un raccourci. Non, on ne se divise pas pour mieux chercher le tueur. Mmh. Et que tout à coup, ce cri-là, il s'entende. Ça, je trouve ça complètement fou.
Et ben, moi, je tiens à te le dire, Alice Zeniter, quand j'avais lu L'Art de perdre, il y a une des phrases que je me disais beaucoup quand je le lisais, je me disais, mais c'est ça! elle a trouvé les mots, elle a dit les termes, comme on dit, tu vois. Je dis, enfin, quelqu'un qui arrive à le poser, ce qu'on ressent tous, ce qu'on sait de nos grands-parents, nos histoires, et c'est des sentiments tellement contradictoires que tu as réussi à poser dans ce livre, L'Art de perdre, que je tenais à te féliciter pour ça. Parce que t'as touché quelque chose chez énormément de gens, même chez des amis dont on parle de ce livre, qui est en fait... quelque chose qui pour nous est très normal, et en fait quand on les lit on se dit mais en fait c'est pas si banal que ça.
Alors c'est quoi la phrase?
C'est les problèmes de communication, c'est le silence, c'est d'où ils viennent, l'histoire derrière ces silences, les bruits derrière ces silences, c'est ces choses là en fait qu'on se prend en boomerang, en fait, où on se dit mais finalement peut-être que cette enfance où il y avait à la fois du monde et à la fois personne, elle n'était pas si normale que quand on est confronté à d'autres gens, dans, ça peut être dans notre vie de couple ou même dans notre vie professionnelle, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes histoires, en fait. Mmh.
Mais j'aime bien l'idée des bruits derrière le silence, parce que c'est quelque chose justement sur lequel j'ai essayé de travailler dans L'Art de perdre, l'idée que Hamid, qui est la deuxième génération, le personnage de la deuxième partie du livre, lui qui est arrivé d'Algérie enfant après la guerre, lui, il voudrait réussir à passer un silence entier. Mmh. C'est-à-dire quelque chose sur lequel il n'y a pas de questions, il n'y a pas de récit, il n'y a rien. On oublie complètement ça et on se réinvente. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. En effet, il y a quelque chose qui bruisse derrière le silence. Il y a un murmure un peu souvent inquiétant, mais parfois aussi attrayant, qui si on était dans un film d'horreur, qui répéterait Algérie, comme ça, sur tous les tons.
Et ça, en fait, comme Candyman, en fait.
Exactement. Et ça, en fait, il le transmet à ses filles, alors qu'il aurait voulu juste pouvoir être un écran blanc et un silence complet. Et non, ça bruisse derrière le silence.
Est-ce que perdre est un art?
Perdre, en tout cas, n'est pas une honte. C'est quelque chose... C'est quelque chose que je voulais aussi écrire. Enfin, en dehors de cette logique de société un peu effroyablement capitaliste et compétitive, quoi, qui dit qu'il faut toujours gagner, qu'il faut toujours être dans les vainqueurs, qu'il faut toujours... Il y a quelque chose d'absolument nécessaire à la perte, qui s'inscrit dans le processus de vie. Et c'est aussi pour ça que le titre de ce roman, il vient du poème d'Elizabeth Bishop, qui dit que, oui, que dans L'Art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Et en fait, le poème dit un peu le contraire. C'est-à-dire, dit que c'est finalement une épreuve qui est très, très douloureuse, mais qu'il faut apprendre à le faire, parce qu'on se déleste aussi. Ça veut dire laisser derrière des fardeaux, ça veut dire quand même pouvoir se réinventer, perdre quelque chose.
Aujourd'hui, on est tous dans une société de l'approbation. Notre dopamine est stimulée quand on reçoit des likes, quand on fait des vues. Et cette histoire d'avoir tout le temps la meilleure version de soi-même, toi, tu dis que c'est sur scène que tu la montres, la meilleure version de toi-même.
Oui, parce que dans Je suis une fille sans histoire, déjà mon texte, il est écrit et réécrit. Il est travaillé par des semaines de résidence au plateau avec Mathieu Garry, qui est mon regard extérieur. Et donc, en fait, quand j'arrive avec ce texte-là, je suis mille fois plus argumentée, plus solide, plus rapide intellectuellement que dans la vraie vie. je bégaye pas mes pensées, je m'interromps pas en disant non, pardon, c'était une connerie, je pense à voix haute là, pardon, j'ai pris une impasse rationnelle. Mmh. Et pouvoir être ça, pouvoir être cette version voilà, claire, précise et drôle de moi-même, c'est un peu un cadeau que je me fais tous les soirs en allant jouer. C'est-à-dire que même pendant la, si pendant la journée je me traîne, si comme là je suis un peu enrhumée, si... ben, je sais qu'en fait sur scène je vais être libérée de toutes les contingences matérielles qui m'entravent et me pèsent et être la meilleure Alice Zénithère qui soit. Donc c'est très agréable.
Alice Zénithère, c'est un cadeau que tu nous fais en étant ici ce soir sur Europe 1 dans Verveine Underground. C'est un cadeau pour les spectateurs au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai pour la pièce « Je suis une fille sans histoire ». Bande annonce.
La force émotionnelle du récit dépasse carrément le cadre des soirées qu'on passe devant un film ou avec un roman. Elle est aussi présente dans les récits politiques et c'est là qu'elle devient un peu inquiétante parce que ces récits-là, c'est assez difficile d'y échapper. Je voudrais pouvoir m'arrêter au constat que les livres peuvent m'émerveiller de leur pouvoir, qui est mon pouvoir en réalité. Sauf que j'arrive pas à faire freiner net mes pensées. J'enchaîne sur un dérapage et ça m'emmène plus loin que prévu. Et je me dis, attends, si les fictions peuvent construire des ponts, elles peuvent aussi élever des murs, non ?
Alice Zénithère est dans Verveine Underground ce soir. T'es venue avec une playlist, énormément de morceaux dans cette playlist. Mais avant d'écouter ta playlist, est-ce que je peux te proposer un morceau ? Et tu me dis si tu approuves ce morceau.
Ok.
J'aimerais qu'on écoute L'Imal avec Never Ending Story. C'est produit par Giorgio Moroder et c'est la bande originale du film Histoire sans fin. Est-ce que tu valides, Alice ?
Je valide totalement.
On écoute ça tout de suite dans Verveine Underground. Reach the stars. Avec Alice Zénithère dans Verveine Underground. Alice, tu es venue avec une playlist, mais avant, j'aimerais qu'on parle de toi. J'ai une question à te poser, et c'est une question, c'est un débat que j'ai avec beaucoup d'amis masculins et de copines. C'est une notion qui, pour moi, moi j'aime bien appeler cette expression la racine du mal. Okay,
ok.
Et c'est l'expression une fille bien.
Ouais.
C'est quoi une fille bien?
Mais j'aime pas ça, j'aime voilà. pas cette expression.
Merci, vous avez deux heures.
Alors déjà, il y a un petit souci avec le terme fille. Il y a quand même ce petit problème d'être un peu cantonné à un statut d'éternel mineur.
Exact.
Par cette appellation de fille qui, quand elle désigne pas le fait qu'on n'est pas arrivé à l'âge de décider par nous-mêmes, retape aussi un peu du côté de fille de joie et me va pas forcément non plus. Et puis, c'est une fille bien ou c'est une fille sans histoire, expression d'où je tire le titre de mon spectacle. C'est généralement un truc qui me paraît être très triste et très terne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vide. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, c'est une sorte de, c'est quelqu'un qui ne fait pas parler d'elle. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop non plus. C'est quelqu'un qui, je sais pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est juste un contour de silhouette de femme dans lequel on n'a rien mis de personnel. Et c'est généralement déprimant. Et puis, en plus, qui dit qu'on a besoin de la validation de ces expressions données par quelqu'un d'autre ?
Je suis obligé de faire un check à Alice Zénithère. Waouh ! La meuf est trop chambée. On écoute un extrait de ta playlist ?
Ouais, carrément.
Fontaine d'ici, I don't belong. You should have heard I'm in the Bowery. Learning people with a song. Secondhand cloth, make the women feel young. I heard I'm serving as a soldier in the annex of the earth. Threw himself before a bullet and threw the men. écouter Fontaine d'ici I Don't Belong. C'est un groupe de rock de Dublin. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Alice Zeniter?
Alors, j'adore ce groupe. J'écoute beaucoup de rock et plus du rock des années 90. Et depuis que Fontaine d'ici est apparu, je me réjouis du fait que je peux écouter du rock plus contemporain au lieu d'écouter mes vieilleries. J'aime tellement cette chanson que c'est elle que j'ai utilisée pour le générique d'ouverture du film que j'ai réalisé l'année dernière avec Benoît Volney. Et donc, en fait, si je peux la mettre partout, je la mettrai partout. Quoi.
On est là pour ça. On est là pour écouter Fontaine d'ici à fond, en fait.
Ouais.
Ne dis jamais Fontaine d'ici, je ne boirai pas de ton eau. Alice Zeniter, la musique, elle prend quelle place dans ta vie? À quel moment elle est entrée dans ta vie, la musique?
Je pense que si j'étais pas frappée de la malédiction du chanter faux, malédiction qui frappe fort chez moi, elle prendrait vraiment une place énorme. Hein, parce que c'est quelque chose que, c'est quelque chose que j'aime passionnément. J'écoute beaucoup de musique. Alors j'écoute beaucoup les mêmes choses, encore et encore et encore. J'ai un peu ce côté très enfant, quoi. On peut repasser 18 fois la même chanson avant que je m'en lasse. J'ai joué du piano pendant longtemps. Je m'y suis remise un peu là récemment. Et puis en fait, j'ai toujours la tentation de mettre de la musique en live sur scène quand je crée des spectacles. En fait, si je peux être à proximité de la musique en train de se faire, ça me bouleverse. Et donc, si j'avais les capacités d'en faire moi-même, je pense que j'en ferais vraiment tout le temps, tout le temps.
Pourquoi tu ne prends pas de l'autotune comme tout le monde?
Parce qu'en plus de chanter faux, j'ai pas le sens du rythme. Alors du coup, tu vois, il me reste pas grand-chose.
Donc tu danses?
Je danse, ouais.
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 Et lorsque tu écris, est-ce que la musique est importante ou pas?
Oui, généralement, je construis des playlists qui vont avec les livres que je suis en train d'écrire, avec deux contraintes. C'est-à-dire, il y a l'idée que ça doit me garder dans l'ambiance des scènes que je veux écrire, parce que je n'écoute pas la même chose si j'écoute une scène qui est un peu enlevée. Enfin, par exemple, quand j'écrivais L'Art de perdre, il y avait des scènes, je pense notamment les scènes où il y avait Youssef Tadjer dans la première partie, qui est ce jeune type qui veut rejoindre le FLN et qui est tout le temps à fond et qui parle tout le temps. Mais je me disais, en fait, Youssef Tadjer, ça va avec du rap, quoi, parce que je cherche à avoir quelque chose qui a vraiment un beat qui est hyper rapide. Et puis, il y a des scènes qui sont plus mélancoliques où là, j'écoutais les chansons les plus tristes d'Idir en me disant, ça c'est. Et d'un autre côté, il faut aussi que la musique soit pas trop prenante. Et là, ça va beaucoup être une question de recherche de volume aussi, parce que je peux pas arrêter d'écrire pour me laisser complètement emporter par la musique. Donc c'est toujours très compliqué. L'élaboration de quelle playlist, à quel volume, c'est un casse-tête.
Mais ce qui me fascine dans la façon dont tu parles de ton rapport à la musique, c'est la discipline. D'où est-ce que tu as eu cette discipline-là?
Je pense que de toute façon, j'ai vraiment grandi. Moi, j'ai vraiment grandi comme une petite fille sage. Et ce qui n'est pas quelque chose de. Enfin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel chez les descendants d'immigrés. On a un peu tendance à être élevé par des parents qui nous disent qu'il faut qu'on fasse deux fois plus d'efforts que les autres pour produire les mêmes résultats. On grandit aussi avec, un peu avec l'idée que si on sort du droit chemin, l'opprobre, elle rejaillit sur toute la communauté. Donc, si tu fais une connerie, si tu c'est pas juste toi qui fais une connerie. Déjà, bien sûr, c'est ta famille, mais en plus, c'est les Arabes en général qui vont être vus comme des mauvais élèves, des chenapans, des voleurs à l'étal. Enfin, tu vois, toutes les petites conneries que tu pourrais faire. Donc, moi, je file droit, quoi. Par moments, ça m'ennuie beaucoup. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai quand même une certaine discipline. J'ai une facilité à travailler, à organiser mon travail, j'ai quand même hérité de tout ce cadre un peu pesant. J'ai hérité de qualités qui m'aident à avancer dans ma vie professionnelle.
Mais t'as aussi hérité d'un patronyme, Alice Zeniter, qui n'a rien d'arabe.
Non, mais il est kabyle, mon nom de famille. Les gens le voient pas parce qu'ils pensent que c'est alsacien. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que si on bouge les lettres, ça fait bretzel. Mais ça n'est pas vrai. Donc en fait, moi, je sais que mon nom de famille, il vient d'Algérie et il porte cet héritage. Mais mon prénom ne le dit pas. Et puis, pour les gens qui ne sont pas familiers des noms kabyles, c'est vrai que mon nom de famille lui-même est un camouflage.
Et pourquoi un camouflage?
Un camouflage parce que d'une certaine manière, ça m'a été très utile. Je veux dire, je pouvais décider d'être identifiée comme franco-algérienne ou pas. Et il y a énormément de champs, de domaines que j'ai traversés dans lesquels je préférais ne pas.
Tu sais, moi, il y a des gens au début, ils pensaient que Mouloud, c'était un pseudonyme.
Ok, genre c'est un prénom qui n'existe pas.
Ouais, même pas ça, c'est qu'ils pensaient, ouais, t'as fait ça pour réussir. Je dis, mais tu te rends compte que c'est un des prénoms les plus cramés de la Terre et que si je voulais réussir, je me serais appelé Michael Jackson ou Vincent Cassel, j'en sais rien.
Non, en vrai, si t'avais dû prendre un pseudonyme, t'aurais pris quoi ?
Mais jamais de la vie, j'aurais pris un pseudonyme.
Ok.
Jamais de la vie, j'aurais pris un pseudonyme. C'est le prénom de mon grand-père, en fait. Donc, il était impossible de changer. Et puis, je pense que, très humblement, que je ne sais pas faire autre chose que d'être moi. Donc, je ne peux pas avancer avec un autre prénom ou une autre identité. Et moi, ce que j'aime dans ton travail, c'est que il y a des gens qui remuent l'identité et qui aujourd'hui nous font des récits de transfuges de classe parce que c'est à la mode et que c'est quelque chose pour avoir la compassion des élites. Et c'est un truc, moi, qui me dérange, et que toi, tu fais ça juste pour emmener les autres avec toi. Et c'est la différence, en fait. C'est qu'il y a des gens qui racontent leurs récits, qui font de la victimisation pour plaire aux élites, finalement, parce qu'ils ont cette vision des gens qui sont issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Toi, au contraire, tu veux montrer aux gens qui y sont encore ce qu'ils sont en réalité, et de permettre de décoder certaines choses. Et ça, c'est toute la différence, et je tenais à te féliciter pour ça.
Merci.
On écoute un autre extrait de ta playlist, Kazé, Rêve illimité.
Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter, même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité, malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau, je fais des 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt, trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie, où est frappé l'épopée des impies accros à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et
la on vient d'écouter Kazé, Rêve illimité, extrait de la playlist d'Alice Zeniter. Pourquoi avoir choisi Kazé ?
Alors, je l'ai beaucoup écouté il y a quelques années. J'avais un peu arrêté. Et puis quand j'ai recommencé à tourner Je suis une fille sans histoire cette saison, j'ai fait les premières dates au Mans. Et juste après, il y avait Viril qui jouait. Mmh. Donc, la lecture musicale que Kazé fait avec Virginie Despentes et, et Béatrice Dalle. Et je me suis précipitée dans la salle en sortant, moi, de scène pour les entendre. Et je me suis repris une claque parce que Kazé, c'est une puissance, quoi. Mmh. Elle a une manière de manier le verbe, de lui donner une densité, une force. Elle a des graves dans la voix, elle a une articulation, elle a une tenue sur scène que je connais à très peu de gens. Et donc,
Moi, j'ai démarré dans le hip-hop, c'était avec le groupe La Caution, groupe de rap de Noisy-le-Sec, et Kazé les fréquentait beaucoup. Et les rappeurs de La Caution ne supportaient pas quand quelqu'un disait du mal de Kazé ou tentait de la critiquer par rapport à son genre, par rapport à son attitude. Et ils disaient, Kazé, c'est pas la meilleure rappeuse, c'est la meilleure MC. Et en fait, ça remettait les pendules à l'heure, en fait. C'est qu'en termes de compétition, d'écriture, de ce que c'est que le rap et l'art d'écrire les meilleures punchlines ou les meilleures rimes et le meilleur flow, Kazé se posait là, en fait. Et elle avait supprimé la notion de genre, je trouve.
Ouais.
Elle a ce truc, Kazé.
Et ouais. Et du coup, quand je suis ressortie de cette performance-là, eh ben, j'ai recommencé à faire tourner à fond les chansons de Kazé. Mmh. Et cette chanson-là, c'est celle que j'écoute avant d'entrer en scène, en fait, quand je suis au plateau en train de m'échauffer. Et je trouve que... qu'elle me parle beaucoup, quoi. Pour faire le tour de la Terre, j'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Il y a cette chose aussi où, quand j'avance dans l'âge adulte, que je me dis que mon temps sur Terre commence à se réduire, quoi. Que c'est plus, je suis plus à l'époque de « quand je serai grande, je pourrai », et là, tous les possibles sont ouverts. Et je me dis, oui, et malgré tout, en fait, cet appétit, cette faim de dingue que j'ai du monde et de pouvoir accomplir des choses, ça diminue pas. Et donc, je me projette dans la chanson et je danse.
Dans cette chanson de Kazé, Alice Zeniter, elle dit aussi « Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire, c'est d'y être noir, donc minoritaire, hébété par les débilités que la télé déblatère et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. » Cette timidité, vous la partagez avec Cazet ?
Je l'ai partagée. Ouais. J'ai été d'une timidité maladive enfant. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs de faire mes premiers pas dans le théâtre, puisque ma mère m'a inscrite de force à un cours pour me soigner. Bon, là, ça a l'air extrêmement violent, mais je voulais bien y participer. Mais c'est vrai que j'avais... Ouais, j'avais cette peur, et puis cette peur beaucoup des inconnus, quoi. Et en fait, l'inscription au cours de théâtre s'est passée une fois que j'étais en ville, donc à Alençon, avec ma mère. Je devais la retrouver à une heure précise, j'avais pas ma montre, et j'étais terrifiée à l'idée d'aller demander l'heure à quelqu'un, donc je l'ai pas demandé, donc je suis pas arrivée à l'heure. Et quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « bon, non, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose », parce que je pense qu'elle a dit « c'est pas possible d'être aussi gourde », ce qui était une des expressions assez répétées de ma mère pendant que je grandissais. Et au-delà de l'aspect curatif du théâtre, j'ai découvert quelque chose qui du coup a façonné le reste de ma vie, donc c'était une bonne idée.
Alice Niter, dans la playlist, il y a également Colette Mani avec ce morceau Les Tuileries.
Nous vivons ensemble, on est honnête. On n'est pas mouchard, on va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau. Au sang nos caprices, jusqu'aux cantatrices de chez Bobino.
On vient d'écouter Colette Mani avec les Tuileries, extraits de la playlist d'Alice Zeniter. Dans ce morceau, Colette Mani chante « Nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux ».
En fait, je trouve que le portrait des deux personnages qu'elle chante, il est magnifique, quoi. C'est deux drôles aux larges épaules qui font peur aux bourgeois, qui vont dans les tavernes, qui vont dans des parties de campagne se rouler dans l'herbe, qui n'ont pas de bottes, qui n'ont pas de chapeau, et qui en même temps ont un appétit et une joie de vivre qui les emporte. Je crois que à la fois, je suis un peu amoureuse des personnages qu'elle chante, et puis oui, cette admiration, quoi, pour la voix de Colette Mani, qui est une queen absolue, quoi. Elle est indépassable.
Alice Niter, donne-moi ta définition d'une queen.
C'est quelqu'un qui porte, c'est une femme déjà, qui porte ce qu'elle fait. Et c'est pas forcément de l'art, ça peut aussi être une posture militante, un engagement politique, mais à un niveau d'exceptionnalité qui fait que ça produit un respect absolu et une sorte aussi de, en plus du respect strictement professionnel, un truc hyper intime. Et tu sais pas exactement la manière dont ça te touche, mais tu as envie de dire à la fois, tu sais, épouse-moi, adopte-moi, laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Et tu veux en être, en fait. Il y a quelque chose où tu te dis, ma vie serait plus belle dans le cercle proche de cette personne.
Ton top 5 des queens, Alice Zeniter.
Morte et vivante ou...
Tout.
Ok.
Il y a une seule personne qu'on n'a pas le droit de citer, c'est Zinedine Zidane, parce qu'il est au-dessus de tout le monde dans tous les sujets. Mais...
je mettrais Cazé et Colette Mani, qui sont des queens.
Ouais.
Je mettrais Virginie Despentes, Zora Neale Hurston et Amandine Gay. C'est mon amie, donc ça change un peu la donne, mais quand je parlais de femmes qui soulèvent en moi un respect profond et qui sont en fait des phares dans leurs paroles politiques, Amandine, elle a cet effet-là pour moi. Quand je l'entends à la radio, je me dis à la fois elle est merveilleuse, je voudrais l'entendre des heures, et puis pourquoi je peux pas faire ça, et pourvu qu'elle parle des heures.
Alice Niter, tu parlais de Colette Mani. Est-ce que tu peux faire tienne la phrase d'Ademo de PNL quand il dit « Je me balade dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches
» Non. Non, pas exactement, parce que justement à cause du côté petite fille sage, et puis aussi du genrage féminin qui généralement est moins effrayant, c'est plutôt l'inverse. En même temps, maintenant, je m'en fous complètement, mais arrivé à Paris, c'était plutôt quand il fallait que je m'aventure dans les beaux quartiers, alors généralement pour des questions, je sais pas, de visa, de trucs de consulat, machin, je me baladais avec la peur que les riches me foutent dehors, que quelqu'un m'attrape, tu sais, par le chemisier, à l'épaule, comme ça, en me disant « Non, s'il vous plaît, mademoiselle, vous n'avez rien à faire là, c'est une évidence pour tout le monde, donc est-ce que vous pourriez rentrer chez vous dans le 92 et nous laisser tranquillement dans le 16e ?» Et ça s'en va un peu, mais je crois pas que j'ai fait peur aux riches. Je pense, à la limite, tout ce que j'ai un peu tenté pendant ma jeunesse fauchée terrain de provocation où je pouvais les embêter mais pas leur faire peur, c'est que j'ai continué à fumer des roulés, je suis jamais passée au blond, même quand mes moyens ont un peu augmenté. Et il y a certains restaurants où clairement quand je sors ma pochette et que je laisse des miettes sur la table, les gens sont pas contents et me regardent comme si j'étais vraiment
toujours en terminale L.
Ouais, voilà, d'un petit lycée de province, ouais. En terminale L, et je dis oui, en fait vous allez rien faire.
Tu vas faire quoi ?
Exactement.
Je suis une meuf de terminale L, je suis une ouf.
Exactement. Oui, j'ai eu des sarouels, et alors ?
C'est vrai ?
Ouais, j'en ai eu un. Le pluriel est faux.
Alors. Ce sarouelito, raconte-moi tout. C'était quand ? C'était quoi ?
Ah, c'était terminale. Mais tu sais, j'avais aussi un collier en pâte Fimo.
Très bien.
Si j'avais pu, peut-être même que j'aurais eu un écarteur d'oreille.
Mais... Ah ouais, on était là.
Ouais. Ouais.
Et on fumait des roulés, Terminal L, Sarouel.
Bah, Terminal S, en fait. J'ai pas eu le droit à la Terminal L parce que mon père avait quand même pas galéré pour que ses filles fassent des études qui servent à rien. Le but, c'était qu'on devienne présidente de la République. Donc on avait...
Mais c'est pas impossible, en fait.
Alors, c'est pas au programme, non plus.
Si on enlève le Sarouel, je veux dire. Bon. Parce que c'est... C'est plus grave que c'est c'est plus grave que McKinsey.
Tu penses c'est ça le dossier qui ressortirait?
mais c'est marrant ces trucs de tu seras présidente de la République.
Bah j'imagine c'est quelque chose qui est pas forcément à suivre littéralement quoi. C'est cette idée de projeter sur la plus haute fonction possible. Et puis on ne parle pas, justement, on ne parle pas d'une haute fonction égoïste. C'est quelque chose qui permet de redonner au tien. Donc, oui, c'est ce que mon père voyait comme le summum d'une carrière. Et comme il rêvait que tout soit possible pour nous, ben, il voulait ça.
Est-ce que tu penses vraiment que c'est les études qui rendent tout possible aujourd'hui ?
Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on sait que les études elles-mêmes, c'est des éléments de reproduction sociale. Donc, ce qu'elles rendent possible, elles le rendent possible pour une infime partie de la population. Celle qui sait comment jouer le jeu des codes que demande l'école. Et c'est beaucoup plus facile pour les enfants de professeurs, c'est beaucoup plus facile pour les enfants de parents qui ont fait des études, c'est beaucoup plus facile... tous les trucs de qu'est-ce que c'est un bon établissement et un mauvais établissement, il y a énormément de parents pour qui c'est complètement... Ça n'existe pas, quoi. Et donc, les études, elles reproduisent des biais. Après, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quand même en France une immense admiration pour les grandes écoles à la française. Et je sais que moi, d'une certaine manière, j'ai été protégée par le fait que je suis normalienne. En fait, je peux pas être victime de racisme dans le monde littéraire de la même manière que certaines de mes consœurs, dont je sais ce qu'elles ont mangé après année, parce que moi, en fait, cette étiquette-là, comme elle est respectée, comme elle est portée au nu par toute une partie de l'élite française qui reproduit aussi, tu vois, sa propre validation en disant que les grandes écoles, elles valent quelque chose, bah, ils sont obligés de m'adouber. Ils ne peuvent pas dire c'est qui la petite meuf qui débarque et qui gna gna gna. Donc, en fait, ça fait que j'ai un certain crédit intellectuel qui m'est prêté et ça m'a vachement protégée. Et donc, ouais, si je m'appuie sur ça, les études, en tout cas certaines études qui sont cooptées par les élites, elles servent de bouclier.
Comment il se manifeste le racisme dans le milieu littéraire ? C'est des micro-agressions ?
C'est beaucoup en fait, à la fois dans la manière dont tu es porté, dont tu es présenté, puis dans la manière dont tu es reçu. C'est-à-dire que on te traite pas comme un créateur ou une créatrice de langage à part entière. On va considérer que ce que tu apportes, c'est un témoignage de ta communauté. On va te classer en jeunesse sans te demander ton avis. Une fois que tu fais un salon, tu t'aperçois que pour les autres, tes collègues, t'es considéré comme un coup éditorial. Tu vois, genre, on a sorti la beurette, tu vois, t'as avec ces termes qui sont affreux, je pense sont quand même bien tombés en désuétude depuis quelques années, mais il y a 10 ou 15 ans, c'était encore là, ce truc.
Je vous invite à lire un article sur Click de Faïza Zerwala qui s'appelle « Ne m'appelez plus jamais beurette », qui est sublime.
Ouais, tout à fait. Et on ne recommandera jamais assez le travail de Faïza Zerwala.
Mais il y a aussi des auteurs qui jouent ce jeu-là, qui jouent ce jeu de l'édition en se présentant comme des figures ici de l'immigration et qui jouent les faux transfuges de classe ou qui jouent les témoignages ou qui jouent les exceptions.
Ben oui, tu parlais déjà tout à l'heure des récits de transfuges. En fait, il y a quelque chose qui est problématique dans certains de ces récits. Pas tous, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de devenir un peu à la mode. Je pense que...
Moi, j'en ai marre des auteurs qui disent « Mon père, il ne savait pas lire, il faisait des merguez et moi, je suis allé à l'école. » Déjà, c'est insultant par rapport aux parents, c'est insultant par rapport au courage d'avoir quitté un pays pour y vivre et travailler, s'adapter aux coutumes d'un pays. Enfin, je trouve ça fou, en fait, qu'on valorise ça.
Bah, la question, c'est qu'est-ce que tu racontes et pour qui ? Parce que si, dans cette histoire de transfuge, en fait, tu écrases, tu folklorises et tu déshumanises les générations qui t'ont précédé, si, en fait, tu les utilises juste pour dire « Regardez, ça n'était rien, et moi, je suis allée très loin », si t'écris aussi le livre pour produire un récit de la pauvreté et de l'immigration qui soit suffisamment confortable pour la bourgeoisie française qui va le lire, c'est-à-dire qu'elle puisse se dire, elle puisse trouver dans ce récit-là un reflet plaisant pour elle sur sa capacité d'accueil et sur sa capacité à proposer un ascenseur social. Et sur sa... on en parlait récemment donc avec Faïza Zerwala et avec Faïza Guen aussi, de se dire, en fait, un vrai récit de transfuge de classe, il mettrait tellement mal à l'aise la bourgeoisie française qu'elle pourrait pas le porter au nu et en faire un phénomène éditorial. Ça dirait la pauvreté dans lesquelles certaines familles d'immigrés elles ont vécu en arrivant. Ça dirait les immeubles insalubres, ça dirait le racisme quotidien et ça dirait en fait la force de ces familles immigrées et le côté minable de ceux qui sont déjà installés, qui ne les aident pas, qui les laissent vivre dans des conditions affreuses et qui continuent à demander quand même que les enfants s'en sortent par l'école. Et ça, ce serait un récit de transfuge de classe qui ne serait pas complaisant.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu à l'isénitaire, c'est de mettre à l'aise les gens issus des classes populaires, plutôt que de vouloir mettre à l'aise la boulangerie, c'est de les mettre à l'aise avec des récits qui leur ressemblent, des histoires qui leur parlent, des histoires qui parlent d'eux. C'est aussi un enjeu.
Ouais, ça, bien sûr, en fait. C'est complètement un enjeu. Moi, je me souviens quand j'ai publié L'Art de perdre, je suis allée dans un salon du livre, c'était à Rouen, et il y a une vieille femme qui est venue me voir pour faire signer son livre à la sortie. Et c'était une femme voilée, avec un accent très fort, qui venait avec sa fille. Et qui m'a expliqué qu'en fait, tous ses enfants s'étaient foutus de sa gueule quand elle avait commencé à lire L'Art de perdre, parce que, en fait, depuis l'école, elle n'avait jamais lu un roman, et que là, un roman de 500 pages, c'était n'importe quoi. Mais elle me disait qu'elle voulait le lire, parce qu'en fait, c'était un livre sur elle. Et que, elle avait lutté, mais qu'elle avait tout lu. Et voilà, quoi. Elle tenait à me faire savoir que vraiment, elle n'avait pas lâché, quoi. Elle avait lu chaque page jusqu'à la fin. Et je me disais... Ah oui, mais évidemment, en fait, évidemment que cette femme, elle n'a pas lu entre le lycée et maintenant. Parce que pour elle, elle croyait que les romans, c'était quoi ? Elle croyait que les romans, c'était toujours des livres à propos des gens qui n'étaient pas comme elle. C'était à propos de jeunes hommes blancs qui veulent devenir écrivains, qui vont traîner au jardin du Luxembourg. C'était à propos de... l'alter ego de Michel Houellebecq qui a envie d'aller se taper des putes en Thaïlande et qui se dit que vraiment la révolution sexuelle, ça a privé les hommes comme lui d'accès à la chair des femmes. C'était bon, ça fait pas de la littérature une maison accueillante. Hein. Clairement, si on ne dit pas à ces gens que la littérature, elle peut aussi être à propos d'eux, que c'est une maison ouverte à tous, ils vont la laisser. Ils vont la laisser à ceux à qui elle appartenait déjà à la base.
Mais même à ma place, à la position d'être derrière le micro, c'est très dur aussi de s'emparer de la littérature parce que c'est toujours les mêmes qui ont le droit de parler de la littérature.
Alors ça, c'est la fameuse... c'est la fameuse grande question. Je crois que c'était Bourdieu qui l'avait posée, mais la question de qui fait autorité dans le champ.
Parce que nous, on a reçu des auteurs extrêmement importants, des gens qui écrivent, des penseurs, mais on nous réduit tout le temps quand, par exemple... on est interviewé sur France Inter à Click, un média rap.
Ouais.
Alors que quand on fait le prorata, on a reçu 15% de rappeurs à côté d'auteurs, de penseurs, de philosophes.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait, dans le champ littéraire, vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un qui a l'autorité de décréter ce qui est ou non de la littérature.
Faut que je m'appelle Augustin, en fait, c'est ça? Dédicace à Augustin, c'est mon pote. Hein.
Ben oui, mais tu peux pas parce que tu veux pas de pseudo.
Non. Ça se trouve, Augustin, c'est un pseudo. Mais pourquoi est-ce
Alors, je crois pas parce que moi je le connaissais avant.
Je sais.
Il me faisait passer mes examens d'anglais en prépa quand j'avais 18 ans et il s'appelait déjà Augustin.
Et il se rappellera toujours Augustin et on l'aime. Ça, il n'y a pas de problème. mais c'est vrai ce truc de sortir du champ les gens qui ont le droit de parler de livres ou pas aussi, c'est important.
Ouais, et en fait, tu sais, c'est un peu les poupées russes. C'est-à-dire, bien sûr, il y a ceux qui écrivent. Mais au-delà de celles et ceux qui écrivent, il y a ceux et celles qui ont le droit de dire ce qui est ou non de la littérature. Et au-delà de ça, il y a celles et ceux qui ont le droit de dire qui a le droit de dire ce qui est ou non de la littérature. Et au-delà de ça, et tu vois, du coup, ça, c'est toute une sorte de hiérarchie comme ça des autorités et des positions d'autorité. Et puis, par moments, c'est un peu désespérant parce que tu dis, oui, en fait, moi, je vois des écrivains et des écrivaines qui font un travail de malade, qui font vraiment, voilà, tu vois, une production de qualité, qui réfléchissent à ce qu'est une narration, qui créent des personnages que j'avais jamais vus avant. Et en fait, on ne les accueille pas dans la littérature, c'est ce que je te disais. On dit, c'est un témoignage d'une mémoire communautaire, donc c'est très, tu vois, c'est très chouette pour eux.
On n'en a pas marre de ça, franchement.
Si, ça commence à bouger, mais c'est long parce que le vieux monde, quand il s'effondre, en fait, les tenants du vieux monde, par solidarité entre eux, se serrent les coudes et puis...
Pour un Augustin Trappenard, il y a 99 relous, en fait, qui comprennent pas. Augustin, il comprend en réalité. Ouais. Moi, c'est grâce à Augustin que j'ai découvert l'art de perdre. Donc, il y a quand même
Augustin.
Des gens qui font ce défrissage et qui pensent contre eux-mêmes et qui pensent contre leur milieu et qui sont capables de s'ouvrir. Mais pourquoi est-ce qu'en fait ça prend tellement de retard alors que quand on pense France, on pense littérature, quand on pense littérature, on pense ouverture d'esprit, alors que c'est tout l'inverse.
Mais parce que c'est le problème qu'on a partout, dans tous les domaines artistiques que je connais, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à se sortir de l'idée. Et ça se réplique d'ailleurs très clairement dans le domaine politique, hein. Mais on a beaucoup de mal à se sortir de l'idée de l'universalisme à l'ancienne et qui veut dire en fait des histoires d'hommes blancs, c'est-à-dire on nous dit oui, ce qui est universel, ce qui est partageable par tous, c'est ça, et c'est assez marrant parce que sur les questions de genre, par exemple, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup, on trouve complètement normal que moi je lise les histoires de problèmes d'érection des personnages de Michel Houellebecq, et que je considère ça comme universel. Mais si je fais la même chose à l'inverse, je veux dire, si je parle de problèmes utérins, la plupart des lecteurs hommes vont me dire « Ah non, mais c'est pas pour moi ». Et la partition entre ce qui devrait pouvoir être partagé et ce qui ne l'est pas, ce qui relève du coup d'un truc intra-communautaire, elle est hyper claire. Et donc ça marche sur les questions de genre, ça marche sur les questions de classe sociale, ça marche sur les questions de couleur de peau. Et franchement, on va pas s'en sortir tant qu'on aura une sorte de mouvance printemps républicaine, à la fois en politique et dans les arts, et qui dit l'universalisme avant tout. C'est pas de l'universalisme, c'est des histoires d'hommes blancs.
C'est quoi, Alizé Néter ? Moi, je vais monter une maison d'édition.
Mais vas-y !
Voilà, on l'a créée, elle s'appelle Click Édition, et on n'a encore rien sorti, on n'a rien publié, on n'a rien dévoilé. Tu sais ce qu'on a lu sur nous ? C'est une maison d'édition dédiée aux cultures urbaines.
Ah, bien sûr, les fameuses cultures urbaines.
Il est chiant, ce mot valise aussi, cultures urbaines.
Ah en fait, il est aussi terrible, parce que tu sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les gens imaginent que tous les Noirs et les Arabes de France sont élevés, non, sont élevés un peu, tu sais, comme dans Matrix, dans les sous-sols des grandes villes. Mmh. Et alors, du coup, ils n'existent pas dans la ruralité. Tu vois, ça déjà, c'est une sorte de manière d'effacer complètement une partie des populations. Et oui, bien sûr, après, tous et toutes écoutent du rap, portent des survêtements fluo, ont des casquettes à l'envers, parce que je pense que les préjugés, tu sais, ont encore 20 ans de retard. Mais ça veut dire que... Et c'est ça qui est pénible, c'est que ça veut dire que quoi que tu publies qui sorte de ce cadre étroit des préjugés, eh ben, il va falloir te dire qu'avant de toucher son lectorat, ces récits ils devront démonter tous les récits que les gens se sont construits sur les auteurs et autrices.
Et ben, tu sais quoi, on va le faire.
Ben, je trouve que ça vaut la peine d'être fait. C'est un effort massif, mais bien sûr que ça vaut la peine d'être fait.
Et comme toi, tu l'as fait, et je te félicite pour l'ensemble de ton œuvre. Tu es sur la scène du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai pour la pièce « Je suis une fille sans histoire ». Tu l'as mise en scène. Alice Zénitaire était au micro de Verveine Underground. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Alice ?
De bonnes et longues vacances. Parce qu'après cette année-là, c'est ça dont je rêve.
On te souhaite des bonnes et longues vacances avec un Wi-Fi pas trop loin, car tu as envie d'écrire. Verveine Underground revient dans un instant avec Frank Sinatra.
We're on the road to romance, that's safe to say.
Également Ray Charles.
When you see me in misery, come on baby, see about me now.
A tout de suite sur Europe.
Hey, hey.
Verveine
Underground.